Alors, nous sommes 12 élèves d'Anne Frank et du Ronceret à venir vous présenter un petit peu le prix des lecteurs. Donc, les élèves ont lu plusieurs livres, donc ils ont plein de choses à dire à propos de ces livres-là. Et on a remarqué en particulier que le thème du père revenait souvent. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as pensé du père dans Bloch, par exemple ? Non, ne sois pas intimidé, approche-toi du micro, Charlie. Bon, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer à propos de Blog ? Oui, vas-y, Laura.
Bah, en fait, le père, il parle avec sa fille et enfin, ils sont trop pas ensemble, en fait. Ils sont pas liés. Ils parlent pas beaucoup. Ils sont plus normal, quoi. Enfin, lui, le père, il voit le blog de son fils. Il lit. Enfin, il voit plusieurs choses. Et son fils, le plus qu'il voulait, bah, le plus truc qu'il aime, bah, il l'a eu pour son anniversaire. Donc voilà.
D'accord. Et quelle a été votre réaction, vous, quand vous, enfin, quelle est la réaction du fils déjà, Félicia, quand le père lit le blog de son fils, qu'est-ce qu'il, comment il réagit le fils hein?
Bah, en fait, il prend hyper mal. Il considère ça comme un viol virtuel et il décide de ne plus adresser la parole à son père jusqu'à temps qu'il parte de la maison. Mais son père va à lui donner une boîte, bah il l'a appelé la boîte de Pandore et la secret story de son père, et il découvre en fait peu à peu son adolescence, les sentiments qu'il a eu, et il se dit que lui aussi il a été comme son fils, quoi.
Voilà. Est-ce que les autres, vous avez eu un peu la même lecture? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Je sais pas, toi Aline par exemple, qu'est-ce que tu penses de l'attitude du fils? Est-ce que c'est normal qu'il soit révolté comme ça contre son père?
Bah oui, c'est normal parce que moi je voudrais pas que mon père il vienne.
Tu voudrais pas que ton père lise ton blog? Joseph?
Oui, moi je trouve que, je sais pas, s'il a mis ça sur un blog, je trouve tout à fait normal que tout le monde puisse le lire. C'est un endroit où tout le monde peut lire ce blog, même les parents.
C'est-à-dire que pour toi, le blog, c'est pas quelque chose de privé finalement. C'est quelque chose de public, puisque c'est sur Internet, c'est public.
Oui.
Voilà. Et les autres, vous partagez ce point de vue ou il y en a qui ont trouvé que... Félicia, oui, tu as trouvé que...
Bah en fait c'est privé sans être privé parce que c'est clair, c'est sur un blog, mais le père, est-ce que vraiment il savait qu'il avait un blog? C'est lui aussi qui a joué son fouineur et dans un sens moi je me dis il avait pas à faire ça, il avait pas à aller sur le blog de son fils car c'est un endroit privé.
D'accord. Et Siwar, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça?
Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ce qu'a dit le garçon
Joseph.
Mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Félicia, parce qu'un blog c'est personnel. Et puis, le narrateur, il peut écrire des choses sur son blog qu'il voudrait pas dire à son père, ses parents. Donc, c'est quelque chose de personnel.
D'accord. Betty, tu voulais dire quelque chose de différent? Et est-ce que vous connaîtriez pas un autre moyen qu'il aurait pu utiliser pour écrire Benjamin?
Enfin, s'il veut pas que les autres le sachent, il écrit ça dans un journal intime après.
Voilà, hein, effectivement, il aurait pu aussi écrire ça sur un journal parce que, bon, il aurait pu se faire que son père ne voit pas son blog et il y avait aussi une possibilité pour que son père y ait accès. Félicia?
Bah, dans un sens, un journal intime, voilà, c'est bien, mais peut-être qu'il avait un peu la flemme d'écrire et. Un jour ou l'autre, son père, par exemple, je sais pas, en fouillant dans sa chambre, il aurait pu tomber dessus. Et ça aurait pu arriver, ou il aurait pu faire son fouineur, quoi.
D'accord. Alexandre?
Bah ouais, moi je suis d'accord avec Félicia. C'est vrai qu'un journal intime, à un moment ou à un autre, ça tombe dans les mains des parents. Alors que quand tu prends un blog, les parents savent pas forcément que ça existe.
Ils vont pas forcément utiliser Internet,
ils vont pas forcément penser que le fils a un blog.
D'accord, Joseph.
Oui, par rapport à ce qu'a dit Félicia, je ne suis pas d'accord parce que s'il avait vraiment la flemme et qu'il ne voulait pas que son père le lise ou sa mère, Bah, même flemme ou pas flemme, s'il voulait pas qu'il soit lu, fallait quand même qu'il écrive. Je sais pas, vaut mieux écrire dans un journal intime que sur un blog s'il veut pas.
Si c'est privé, si c'est privé, ça a plus de chances de rester privé.
Oui,
d'accord. Tu voulais ajouter quelque chose, Benjamin ?
Oui. Enfin, moi, je suis un peu d'accord avec Joseph parce que, enfin, quand un journal, enfin, t'as moins de chances qu'il soit lu. Tu le caches quelque part, bien caché, qu'un ordi. Enfin, tu tapes ça, puis voilà, et tu le trouves tout de suite. Hein.
Oui, Betty.
Si t'es face historique, il peut pas voir.
Ah, voilà, il y a des techniques pour aider un petit peu, Laura.
Bah, un journal intime, c'est pour les filles, mais bon, il y a des gars qui peuvent en faire. Mais le truc, en fait, s'ils le cachent, les parents, ils aiment bien fouiller, donc après aussi, ils peuvent le trouver aussi, donc après, c'est pareil.
Est-ce que c'est que pour les filles, les journaux intimes
Non.
Moi, j'ai déjà entendu parler des garçons de leur journal intime. Hein. Non, bon, ils osent peut-être pas en parler, mais...
Moi, j'en ai un, je peux dire.
Oui, Joseph.
Oui, moi, pour les journaux intimes, moi, je trouve que, je sais pas, c'est pas que pour les filles, parce que, par exemple, moi, je sais pas, j'en ai un, donc tout le monde peut en avoir un.
Oui.
Quand tu veux dire des secrets, t'en mets. Hein.
D'accord. Dans Benjamin, tu veux ajouter quelque chose ?
Enfin, un journal intime, enfin, c'est un peu pour se soulager, donc après, quand t'as trop de peine, tu écris dessus, donc après, c'est pas que pour les filles. Hein.
Voilà, c'est plus voilà, une question de libération, peut-être, Alexandre ?
En fait, oui, le journal intime, c'est pas forcément que pour les filles, mais bon, quand tu prends un journal intime de filles et un journal intime de garçons, va pas y avoir écrit forcément les mêmes choses, en fait.
D'accord. Quelle différence pour toi ?
Le garçon, il écrira plus de choses qui sont passées, alors que une fille, des fois, elle aime bien garder des trucs pour elle.
Qu'elle met quand même dans son journal.
Ouais, voilà.
D'accord. Alors, Joseph et puis Félicia ?
Mais est-ce qu'il peut revenir le plus souvent dans des journaux intimes de filles et de gars, ce qu'on peut retrouver ? Après, ça peut être les problèmes familiales et les peines.
D'accord.
Est-ce qu'il peut revenir beaucoup ?
Et dans blog, Félicia, est-ce que tu peux, pour revenir un petit peu au livre là, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y met le narrateur de blog ? Dans son journal en ligne, en fait, hein, son blog, c'est un peu comme un journal en ligne.
Ben en fait, si je me souviens bien, ben il partage en fait sa peine, ses joies, et voilà, il y met ce qu'il pense. Par exemple, son groupe préféré, il y met qu'il aimerait bien y aller et tout ça, et justement, il a des doutes par rapport à ça, que son père a joué son fouineur, parce que pour son anniversaire, il lui offre deux places.
Ah oui, c'est comme ça qu'il dit, voilà, il se doute de quelque chose. Et ça, bloc de filles ou bloc de garçons, à ton avis ?
Les deux, hein.
Voilà, parce les deux, vous voyez.
Hein, les filles peuvent mettre aussi des trucs comme ça. Hein.
Aline ?
Oui, bah, les deux peuvent mettre les mêmes choses, mais c'est plus confidente, les filles, parce que... ils disent tout que les garçons, ils...
Voilà, pour toi, les filles vont se confier davantage à leur...
Ouais.
D'accord, donc c'est ton point de vue. On voit quand même au fur et à mesure du roman que le père se fait petit à petit pardonner par son fils. Et comment leur relation évolue-t-elle à la fin ? Alexandre ?
Bah, à la fin, on voit que du coup, le père, il a réussi à... on va dire, ils ont réussi à retrouver le moral tous les deux parce que en fait, ben, le fils il s'aperçoit que le père, il était un peu pareil, plus jeune et que en fait, ben, il avait rien à reprocher à son père.
Finalement, son père était un peu comme lui. Leïla, est-ce que tu partages ce point de vue ?
Oui.
Oui. Et toi, tu trouves que le conflit, tu penses que le conflit, ça a fait évoluer ou pas leur relation ?
Oui, ça l'a fait évoluer parce que grâce à ça, ils se sont rapprochés vers la fin.
Oui, hein, ils se rapprochent vers la fin. Est-ce que quelqu'un se souvient de la décision qu'ils prennent Oui.
Bah en fait, histoire de couper leurs disputes, ils vont écrire un blog à quatre mains. Par exemple, le père va partager ses opinions et le fils aussi. C'est voilà, c'est histoire de couper le sifflet, quoi. C'est.
Et donc c'est quand même un père assez moderne finalement. On se rend compte de la modernité du père parce que finalement il était un petit peu comme son fils. Est-ce qu'on peut dire la même chose du père de la Trappe-Rêve, Océane? Est-ce que c'est un père moderne aussi, le père de la jeune fille? Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'histoire de la Trappe-Rêve?
Bah, pas vraiment, parce que j'habite, c'est pas en centre-ville, donc c'est un peu reculé par rapport à tout ce qui est technologie et tout ce qui va avec. Donc il est pas vraiment moderne, il sera plus, il va travailler tout ce qui est naturel au niveau de la Syrie. Et
dans la relation avec sa fille, qu'est-ce que tu en penses?
Plutôt pas distant, mais on va dire que il surveille, mais de loin, tant qu'il ne ressent pas vraiment quelque chose par rapport à sa fille, il ne va pas forcément être sur son dos et il va la laisser faire et agir.
D'accord, il la laisse assez libre. Vous avez ce sentiment-là, Félicia ou Laura, je ne sais pas?
Bah, en fait, il est distant, oui, mais il la surveille quand même. Par exemple, comme quand Shems, il arrive, il va la surveiller tout ça et il va quand même... Il va quand même lui dire qu'il faut qu'elle arrête avec Shems parce qu'il n'accepte pas du tout la relation qu'il y a entre les deux. Donc, il la surveille quand même assez beaucoup, quoi.
Oui, il la surveille beaucoup. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui le dérange chez Shems, Benjamin?
C'est qu'il n'est pas français, parce que...
Enfin, il n'est pas français, il est américain, il n'est pas américain.
La vallée, enfin, elle est un peu raciste envers lui, donc... Enfin, le père, il est un peu pareil, et dans la vallée, enfin, il n'y a qu'une personne qui l'aime bien, c'est elle, la fille. Mmh. Et enfin, la fille, elle essaie de faire comprendre à ceux de la vallée que en fin de compte, enfin, c'est pas la couleur de peau qui compte, enfin, qu'ils sont tous pareils.
Donc, voilà, elle essaie de montrer un petit peu toutes les qualités de Shems, Laura.
Bah, en fait, dans la vallée, ils sont tous ensemble. Que Shems, il vient d'arriver, c'est le seul avec sa mère. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. Et voilà, et la seule qu'il aime, bah voilà, c'est vrai, c'est Louise. Elle est toujours avec lui, donc voilà.
Voilà. Donc on voit que c'est pas le même père, là. C'est plus un père un peu... Donc il lui laisse beaucoup de marge et en même temps, il est quand même autoritaire par rapport à ses décisions à elle. Ce qu'on n'a pas vu chez le père de Blog. Benjamin, tu veux ajouter quelque chose?
Ouais. Le père, enfin, il est discret, c'est-à-dire que il va se renseigner, mais le temps que ça va encore mieux, enfin, il va être discret, il va rien dire. Mais quand il va découvrir des choses, là, par contre, des choses que ça lui plaît pas, bah là, par contre, il va le dire. Donc, il va plus être discret, mais vers la fin, enfin, Louise et le père, ils vont plus se voir quand Shems, il va être en prison. Et vers la fin, ils vont bien se réconcilier. Et puis, et le père, il se rend compte qu'il pourra rien faire pour enlever Louise et Shems, enfin, qu'ils sont faits pour être ensemble.
D'accord. Donc, c'est plutôt le happy end, quand même, à la fin. Félicia?
Bah, en fait, au niveau de la réconciliation, ça laisse quand même un doute, parce que c'est clair, Shems est enfermé en prison, Louise part de la vallée, mais quand Shems a fini, bah, à sa peine, il retourne dans la vallée, main dans la main, mais le problème, c'est que le père, il arrive, et il fait « alors », le mot qu'il a tout le temps l'habitude de sortir, et là, ça s'arrête. Donc, est-ce que ça redeviendra comme avant, ou est-ce que ils vont vraiment se réconcilier? On a quand même un doute.
Oui, c'est ouvert. C'est vrai que c'est ouvert. Alors, on voit vraiment qu'il y a des figures assez différentes, hein.
Yeah. streets looking good. And baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Now, heal me when I cry. Baby, I cry all the time, but each time I tell myself that I can't stand the pain. But when you hold me in your arms, I'm singing once again. Said, come on, come on, come on, come on. Yeah, take another little piece of my heart now, baby. Bring it. Take another little bit of my heart now, yeah. Take another little piece of my heart now, baby. Well, you know you got it. Shine if it makes you feel.
Parler aussi d'un autre roman où il y a plusieurs, on pourrait dire presque plusieurs pères, et ou en tout cas plusieurs familles. C'est dans En un tour de main. Est-ce que quelqu'un veut nous parler un petit peu de Laura? tu veux nous dire quelque chose sur le père? Qu'est-ce que où Corentin n'est pas là, donc qui est-ce qui va nous parler de En un tour de main? Océane?
Oui. Hein?
Vas-y, à toi la parole.
Au niveau de la relation du père, c'est un peu plus compliqué parce que le père, il a pas vraiment de travail, on va dire, qui réussit à les faire survivre. Leur situation est très compliquée.
Il a un problème en particulier, le père.
Oui, il est alcoolique.
Il est alcoolique.
Mmh. Et donc les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas vraiment de relation unie entre eux. Du coup, c'est celui qui va leur apprendre la magie, qui va...
Le capitaine.
Voilà, qui va pendant quelques temps remplacer le rôle de père.
Mmh. Et lui, quel type de personnage est-ce que c'est un personnage positif?
Oui, parce qu'il va malgré tout réaliser le rêve de...
Les aider à réaliser.
Voilà.
Oui, Félicia?
En fait, le capitaine, il aide Matt à apprendre la magie, mais en fait, il est bien et pas bien, parce que quand même, il a fait croire aux services sociaux qu'il habitait dans un grand appart et tout ça, alors que quand Matt et Tarek sont arrivés, ils étaient dans un squat.
Voilà, donc c'est un personnage positif dans la mesure où il a de l'énergie à revendre, mais effectivement, il n'est pas tout à fait blanc comme neige au niveau de la moralité et de la loi. Est-ce que ces différents pères, donc même le père alcoolique finalement, est-ce que quand même il a un rôle positif? Qu'est-ce qu'il a de positif vis-à-vis de ses enfants, Alexandre?
Déjà, ce qu'il y a de positif, c'est qu'à un moment, le père, qui est quand même assez alcoolique, il se rend compte qu'en fait il a plein de choses à rattraper, et c'est là qu'il va les emmener au fameux musée de la magie, Et du coup, ben il est quand même assez gentil sur ce coup-là, parce que il se rend quand même compte que ses enfants, ils ont pas eu l'enfance qu'ils auraient voulu avoir, c'est-à-dire avec le père qui est alcoolique et enfin voilà quoi.
Voilà, oui, c'est vrai, hein. Il y a cette fameuse scène où il emmène ses fils et il pense que le père va entrer dans un bar, et non, finalement, c'est pas dans un bar. Si, il les emmène dans un bar, mais il prend de la grenadine, enfin, ou un petit café, je sais plus, mais. Hein, donc vous vous souvenez de cette scène, Félicia?
Bah en fait c'est le père qui donne le goût du rêve à Matt et à Tarek, parce que il les emmène au musée de la magie, mais il y a un seul problème, c'est que il se fait faucher par une ambulance parce qu'il avait trop bu, je crois, un truc comme ça, et après il se fait direct emprisonner. Donc heureusement qu'il y avait quand même le capitaine pour les rattraper, et aussi au niveau de la famille d'accueil.
Voilà, il y a plusieurs familles d'accueil, hein. Et là, et on peut dire peut-être même que la famille le squat du capitaine, avec tous les habitants du squat, c'est un petit peu une famille, c'est aussi de substitution, famille. Hein. Donc tout à fait. Il y a donc la justice est quand même assez présente, hein, ça rythme un petit peu le roman. Là où la justice est le plus présente, c'est dans Peine maximale, hein, dont Thomas va nous parler un petit peu. Est-ce qu'il y a, on peut dire qu'il y a une, une image de père ou pas dans ce roman-là?
Pas trop, parce que le seul personnage qui pourrait, comment dire, ce qu'on appelle père, c'est le mec qui s'est emprisonné, donc, parce que pour...
C'est le plus vieux, tu veux dire? Là, il est le père, c'est le juge.
Oui, le juge.
Ou le juge dans le procès. D'accord. Et qu'est-ce que tu retiens de ce roman?
Il y a une justice, hein.
Qui a une justice, c'est-à-dire, est-ce que tu peux développer un petit peu? Quelqu'un peut peut-être l'aider, je sais pas, Félicia, vous...
Moi, personnellement, je veux pas trop en parler parce que moi, j'ai bloqué, je sais plus à quel moment, parce que j'ai pas trop aimé ce roman-là.
Ah, c'était un gros roman. Oui, Thomas, tu veux ajouter quelque chose?
Moi aussi, j'ai bloqué un peu, mais la fin, après, j'ai commencé à pas trop comprendre le truc à la fin, parce que... à la fin, on dit 10 ans de prison, mais après, à la fin, il a quand même de la prison.
Il a quand même de la prison. Hein. Le titre du roman, c'est peine maximale. Ouais. Il prend quand même une peine maximale.
Hein, 10 ans.
Pour avoir enlevé un enfant, même si au départ, c'était pas ce qu'il voulait faire. Hein. C'était presque un accident, hein, l'enlèvement d'enfant, mais bon, il a eu lieu quand même. Hein. Donc, on va peut-être pas s'éterniser sur ce roman-là où personne n'a l'air d'être très motivé pour un développement quelconque.
Papa ko ne yenya hengi, nyero ko re yikonye hengi, yara bo lo uyanye hengi, tanya je ko wohono, arabe ye yenye hengi. Majhano ngadu nye nga choku ye ni amga ye ngodu ye ni nye roko re iku ye ni Yara bolo gudi ni, yura ta ze igabi ni, yabto da to tengu, sheda jaga no utangu, yabto ka ne ingashi ni. Yoko ye ya le no hona she ya rang hona ba ke da rang
J'aimerais bien qu'on aborde un petit peu ma rencontre avec Violette Park, parce qu'on a pas mal parlé de blog, où on a un père qui est très dévalorisé au début, puis qui revient après, finalement, où on se rend compte que, bon, finalement, c'est un père qui est pas mal, qui s'intéresse à son fils, qui est moderne, lui aussi, etc. Et dans ma rencontre avec Violette Park, c'est un petit peu le contraire. Est-ce que, Océane, tu pourrais nous en dire deux mots, s'il te plaît?
Au début, il ne connaît pas vraiment son père. Du coup, il l'idéalise et comme il ne le connaît pas, il le fait apparaître comme quelqu'un pas parfait, mais presque.
Alors, il idéalise son père pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il idéalise son père dans ma rencontre avec Violette Park? Qu'est-ce que le père vit avec lui?
Il est parti, il les a quittés, donc il se retrouve seul avec sa mère.
Voilà. Et donc, qui est cause de tous les troubles?
C'est la mère.
Voilà, hein, c'est la mère évidemment, puisque donc le père il est pas là, donc il est vraiment idéalisé. Hein. Et qu'est-ce qui se passe petit à petit au fur et à mesure du roman? Siwar ?
J'ai pas compris la question.
Alors, au début du roman, le père est vraiment idéalisé. Hein, le garçon vit seul avec sa mère, donc il met vraiment son père sur un piédestal. Et puis, quand il mène l'enquête pour découvrir qui a déplacé les cendres, enfin où mettre les cendres de Violette Park, petit à petit, il va mener une enquête et découvrir que c'est peut-être son père qui est intervenu dans la mort de Violette Park. Donc, comment il réagit à ce moment-là?
Ben moi en fait j'ai pas tout lu, mais ce qui m'a trop marqué, c'est que en fait le narrateur, il voulait vraiment savoir à qui appartenaient les cendres de Violette Park. Mm-hmm. Et puis voilà, il a mené une enquête, et puis comme j'ai pas fini, je sais pas encore s'il l'a trouvé.
Tu l'avais fini, Océane, ce roman? Tu peux nous dire à la fin quelle image il a de son père? Est-ce qu'elle est toujours aussi idéalisée?
Non, parce que maintenant, il sait ce qu'il a vécu et tout ce qui s'est passé en rapport avec Violette Park et toute l'histoire. Et du coup, maintenant qu'il sait ce qui s'est passé, il ne peut pas nier les défauts qu'a eu son père. Il se retrouve face à la réalité.
Voilà. Et son père est peut-être même coupable d'avoir aidé Violette Park à se suicider.
Voilà.
Donc, effectivement, il tombe un petit peu de son piédestal. Hein. Et il l'aurait peut-être fait, en plus, pour de l'argent, ce qui est vraiment pas très louable. Joseph ?
En gros, il a fait tout ça enfin, il est retourné dans son passé. Enfin, il a tout compris, quoi, dans son passé.
Voilà.
Il a trouvé petit à petit des indices qui l'ont aidé.
Voilà, les indices l'ont aidé parce que effectivement, c'était un petit peu. Au départ, c'était pas son objectif, c'était pas de savoir ce qu'était devenu son père, mais les deux éléments se sont rencontrés, quoi. À la fois le personnage qui était dans l'urne, et puis. Alors, on va poursuivre peut-être avec un autre roman que vous êtes plusieurs à pas mal connaître, d'autant plus qu'on a eu la chance de rencontrer l'auteur. Il s'agit du grand Joseph. Alors, est-ce que quelqu'un... Alors là, il n'y a pas de personnage de père, hein, mais peut-être que vous pouvez... Betty, tu veux dire quelque chose sur ce roman ?
Dans le grand Joseph, je trouve que le père, il n'est pas vraiment mis en avant, c'est plutôt le grand-père.
Tout à fait.
Parce qu'il il passe beaucoup de temps avec sa petite-fille, et voilà. C'est tout.
D'accord. Leïla, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça ?
Oui, c'est vrai, on n'entend pas beaucoup parler du père, on entend plutôt parler du grand-père, parce que dans le livre, on peut voir qu'il est encore plus proche de Jumana que son père.
Tout à fait, hein, le grand-père est vraiment un personnage très très important. Benjamin ?
Le grand-père, il est un peu défenseur envers Jumana, parce que quand la grand-mère, elle est plutôt assez sévère,
très autoritaire.
Ouais, voilà. Et par contre, le grand-père, il n'est pas aussi autoritaire que ça. Il est assez sympa. Et enfin, Jumana, elle l'aime bien. Et voilà.
Oui, Jumana, donc sa petite fille. C'est vrai que c'est un petit peu le lien avec son pays aussi, ce grand-père. Laura ?
Le grand-père, en fait, ça joue un peu le rôle du père, parce que Jumana, elle est tout le temps avec son grand-père. On n'entend presque pas beaucoup parler de son père, donc voilà, c'est tout le temps...
Un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ce père, finalement ?
Qu'il l'envoie en France, parce qu'il y a eu la guerre au Liban, donc elle s'en va avec sa mère.
Voilà, hein, c'est un petit peu... c'est aussi qu'il se sacrifie, peut-être. Siwa ?
Moi, j'ai aimé cette histoire, parce que comme c'est un roman autobiographique, en fait, la narratrice, elle raconte son histoire, et des fois, on a des doutes si c'est vraiment, c'est vraiment lui qui... la personne qui parle ou pas. Et puis, quand elle parle de ses grands-parents, elle leur donne une image positive. Et pour sa grand-mère, un peu une image négative, parce qu'elle est des fois, elle est des fois méchante.
Il y a beaucoup d'ironie, d'ironie par rapport à sa grand-mère. Benjamin ?
Surtout, quand tu le commences, tu te dis, mais c'est quoi cette histoire ? Tu comprends pas trop. Mais vers la fin, vers le milieu, tu comprends vite. Et quand le fait qu'on a rencontré l'auteur, ça nous a vraiment, que ça soit l'auteur vraiment qui nous raconte qu'est-ce qu'elle a voulu dire dans ses livres, c'est vraiment. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur.
D'accord. Alexandre, tu veux ajouter quelque chose ?
Ouais, en fait, on se rend compte que elle considérait beaucoup plus ses grands-parents comme ses parents que ses propres parents comme ses parents. Donc et puis c'est vrai que le fait de la rencontrer, de rencontrer Koshka et puis de lire le roman après, ça donne vraiment du piment à l'histoire, parce que on se rend compte qu'en fait c'est sa vraie histoire et que elle dit beaucoup de choses qu'elle aurait pas pu dire plus jeune. Donc c'est vrai que ça voilà, donne vraiment
un certain recul. Siwar, et puis après,
oui,
on va,
je suis d'accord avec
Alexandre.
Avec Alexandre, parce que quand on lit l'histoire et que quand c'est Koshka qui nous raconte un peu l'histoire, c'est pas pareil, parce que quand elle nous raconte l'histoire, on sent vraiment là-dedans. Mais quand on lit, c'est juste des mots écrits sur une feuille.
C'est pour ça que c'est important des fois de rencontrer les auteurs. Félicia ?
C'est clair que rencontrer Koshka en personne, ça a beaucoup aidé, et on a appris aussi des choses, par exemple la lampe que son grand-père a donné à Jumana, en fait elle existait pas, mais elle nous a dit que son grand-père, ça aurait été du style à lui donner. Mais son grand-père, elle l'idéalise, l'idéalise pas, c'est vrai, il était comme ça.
Peut-être qu'elle l'idéalise quand même.
Mais elle le qualifiait comme le crocodile.
Oui.
Parce qu'il était, il était très grand, et il mangeait des chocolats et tout ça dans sa chambre. Il a protégé, quoi. Mm-hmm.
Benjamin ?
Ce qui était assez marrant, c'est que la grand-mère, elle n'aimait pas les chats. Et Jumana, elle adorait les chats. Et quand la grand-mère, elle est morte, elle a dit qu'elle voulait que le chat qu'ils avaient, Jumana, quand elle est partie, elle l'a laissé à ses grands-parents. Et elle a fait des petits. Et la grand-mère, elle a dit qu'il fallait les garder. Et depuis,
Voilà, on voit qu'elle n'est pas si mauvaise. Voilà. Finalement. Alors justement là pour revenir un petit peu à notre thème et peut-être un peu conclure aussi autour de cette table, on voit qu'il y a des pères. On a vu plus présents les pères que les mères hein, dans ces romans. Des pères qui facilitent un peu les choses, des pères qui au contraire comme dans par exemple le grand Joseph, donc le grand père qui aide un peu, des pères un peu neutres comme dans l'Attrape-rêve, et puis des pères plus qui sont finalement pas si idéaux, mais qui peuvent changer d'image au fur et à mesure du roman. Donc ces pères ont différents profils et les narrateurs portent différents jugements sur eux. Mais à la fin, on voit que à chaque fois qu'il y a conflit avec les pères ou la famille, qu'est-ce qui change pour les personnages dans l'ensemble? Est-ce que ça fait évoluer les personnages? Félicia?
Bah oui, ça les fait évoluer. Par exemple, dans Bloch, il évolue avec son père. Dans l'Attrape-rêve, Louise, elle évolue elle-même, en fait, parce qu'elle apprend à prendre des décisions toute seule et tout ça. Et en un trou de bain, Matt, en fait, il apprend à faire de la magie grâce au père.
Dans un sens, oui, c'est grâce à son père. Alexandre?
Bah ouais, en fait, on voit bien que dans tous les romans qu'on a pu lire, les pères, ils ont quand même un rôle important dans l'histoire, malgré quelquefois où on n'en entend pas trop parler, mais dans tous les romans, ils ont quand même un rôle important.
Dans le fond, on voit que soit ils sont trop présents et ils font évoluer les personnages, soit ils sont absents et ils font aussi évoluer les personnages par leur absence, des fois.
Bah oui, en fait, on voit totalement qu'il y en a des fois, comme dans Blog, le père, il veut vraiment se rattraper de la bêtise qu'il a faite, alors que, par exemple, en un tour de main, le père se fait emprisonner et puis, il se fait arrêter. Et puis, finalement, Matt, il apprend quand même la magie, donc ouais, des fois c'est involontaire et des fois c'est volontaire, mais on voit que les pères ils ont quand même un gros rôle dans les livres.
D'accord, t'es d'accord avec ça, Charlie?
Oui, je suis d'accord.
Oui. Et toi, Aline, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça a fait changer les personnages, les conflits? Est-ce que les conflits font changer les personnages? Est-ce que ça les fait évoluer?
Oui.
Dans l'ensemble des romans, n'importe. Hein. Oui, t'as aussi ce sentiment. Siwa?
Non, pas trop, en fait.
Non, pas trop quoi? T'as rien à ajouter ou tu penses que ça change pas les personnages?
Non, ça change pas.
Ah, ça change. Pour toi, ça change pas les personnages?
Non.
Tu...
Même s'il y a des conflits, ils essaient de rester les mêmes. On voit pas qu'il y a un changement brusque comme ça.
D'accord, c'est pas un changement brusque. Alexandre?
Il y a des choses où je suis d'accord avec Siwa, parce que c'est vrai que dans certains romans les personnages, il y en a certains qui essayent de se rattraper, de changer, et puis dans d'autres romans on voit bien que ils changent pas, qu'ils sont toujours les mêmes, mais que l'histoire elle a totalement changé, en fait.
D'accord. Benjamin?
Moi, je suis pas d'accord avec Sherworth et Alexandre, parce que c'est après dans le père, il a un peu un grand rôle, mais un peu aussi ça le fait changer aussi, parce que tu veux pas avoir un conflit avec ta fille, enfin t'es le père, t'as un problème avec ta fille, tu veux pas
disons qu'il y a conflit, mais
c'est quand même le père, donc tu veux toujours parler à ta fille.
Oui, dans l'Attrape-rêve, c'est moins une que qui est rupture, quoi, carrément, entre le père et la fille. Elle choisit son camp, elle choisit d'aller avec Shems. Hein. Donc, effectivement.
اسمك في صلوبك بسألك بحبك حبك يا لبنان يا وطني بحبك اسمك في صلوبك بسألك بحبك تسأل شو بني شو اللي ما بني حبك يا لبنان يا وطني حبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني حبك يا لبنان يا عندك بدي ابقى وغيب الغياب اتعذب واشقى ويا محلى العذاب عندك بدي ابقى وغيب الغياب اتعذب واشقى ويا محلى العذاب واذا انت بتتركني يا اغلى الاحباب الدنيا بترجع كذبي وتاج الارض تراب بيعزك بحبك بيفقرك بحبك وبيعزك بحبك أنا قلبي عقيدي لينساني قلبك والسهرة عبابك أغلى من سني وبحبك يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بزنوبك بسألك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني حبك يا لبنان يا وطني وسألوني شو صاير بلد العيد مزروعة عالداير نار وبواريد سألوني شو صاير ببلد العيد مزروعة عالداير نار وبواريد قلتلن بلدنا عم يخلق جديد لبنان الكرامي والشعب بجنونك بحبك وكيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك وإذا نحن تفرقنا بيجمعنا حبك وحبي من اضطرابك بكنوز الدنيا وبحبك يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بجنوبك بسألك بحبك بسأل شو بني وشو اللي ما بني بتسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا
Voilà, je crois que les élèves avaient préparé les introductions musicales, donc peut-être qu'on peut enchaîner avec ça. Qui, je donne la parole à qui là à Laura. Vas-y Laura, vas-y présente.
Bah, en fait, on a choisi pour le roman Ma rencontre avec Violette Park la bande originale La leçon de piano. Car en fait, le personnage de Violette Park, c'est une pianiste originaire de Tasmanie, comme la réalisatrice du film, qui est elle-même néo-zélandaise. Donc voilà, Violette Park joue dans de nombreuses musiques de films.
D'accord. Siwar, tu veux présenter un autre
blog.
La musique de blog.
Oui. Donc pour la musique de blog, on a choisi Muse et Shrinking Universe parce que le narrateur dans le roman, il montre qu'il est Muse. Et pour ça, je vais lire un extrait qui le justifie.
On t'écoute.
J'aurais dû m'en douter quand même. Surtout quand il m'a sorti le jour de mon anniversaire le truc dont je rêvais le plus au monde. Deux places pour le concert de Muse à Strasbourg. Honnêtement, sur ce coup-là, il m'a tué. Il déteste Muse. Son truc à lui, ce serait plutôt la variété des années 80. Des morceaux insipides avec des paroles débiles sur lesquelles on danse encore dans les boîtes de nuit de Cambrousse. Ça m'a perturbé quelque temps. Je me suis demandé si je ne jugeais pas mal mon père, s'il ne méritait pas autre chose que la lassitude et le mépris gentillé que je lui témoignais.
D'accord, effectivement, c'est le moment où il a un peu la puce à l'oreille, là où il se dit, mais où est-ce qu'il a bien pu apprendre que j'adorais Muse?
En fait, c'est un peu d'épreuve.
Voilà, c'est un peu l'épreuve, hein. Voilà, tout à fait. Betty.
Pour le roman La Trappe-Rêve, nous avions hésité entre deux thèmes musicaux, Imagine de John Lennon et A Piece of My Heart de Janis Joplin. Pourquoi? Parce que ces disques, ils représentent les dernières choses que la mère de Louise, elle avait laissées avant de quitter le domicile familial.
D'accord, très bien. Mm-hmm. Félicia, tu nous présentes quel choix de musique?
En fait, je suis Betty sur La Trappe-Rêve et en fait, ils ont décidé de mettre A Piece of My Heart parce que je vais lire un extrait de La Trappe-Rêve pour justifier. Alors, un après-midi où l'orage menaçait au-dessus des crêtes, une vieille Studebaker grise de poussière s'est arrêtée devant la maison. La voix éraillée de Janis Joplin sortait à plein tube des fenêtres ouvertes. L'espace d'une seconde, l'image de Mans en train d'écouter ce même disque a ressurgi d'une telle force que j'ai fermé les yeux pour tenter de préserver le plus longtemps possible la minuscule miette de passé qu'elle contenait.
Donc là, il a.
Donc finalement, on a choisi la musique de Janis Joplin, car la Studebaker dont on parlait dans le texte est en fait celle du professeur Monsieur Harrison qui écoutait cette musique. Monsieur Harrison était comme un mentor pour Louise. Il l'a aidé pendant toute son adolescence et il a joué un peu le rôle d'un père pour Louise.
Très bien. Hein, donc, nous vous remercions tous les 12 pour votre investissement dans le prix des lecteurs. Donc, c'était les élèves du collège Laurence Ray et Anne Franck réunis à Cartable FM 93.3. Au revoir.